Après 13 heures avant le rendez-vous de la médiatrice comme un jeudi sur deux, France Culture ne diffusera plus les cours de l'Université Populaire de Michel Onfray. Retour avec Sandrine Trainer, la directrice de la chaîne, sur cette décision au micro d'Emmanuel Davier. Pour l'heure, une grande table donc écourtée mais pleine d'idées autour de la guerre et de sa mémoire. À la veille d'un week-end de commémoration, Emmanuel Macron poursuit son itinérance mémorielle à l'occasion du centenaire de 1918. Et qu'allons-nous commémorer? Non pas la victoire militaire telle que l'a souhaité le président, mais cette grande hécatombe et la victoire de la nation combattante. Itinérance mémorielle, la mémoire dans la guerre, on en parle aujourd'hui avec nos deux invités, l'historien Bruno Cabanne, spécialiste de l'histoire sociale et culturelle de la Première Guerre mondiale, professeur à l'Université d'État de l'Ohio. Il vient de diriger une vaste histoire de la guerre au seuil du 19e à nos jours, deux balises, l'essor des États-nations et la quasi-disparition actuelle des conflits interétatiques. Bonjour Bruno Cabanne.
Bonjour.
À vos côtés, un romancier, David Diop, finaliste du Goncourt et du Renaudot pour son très beau roman « Frères d'âme » paru au Seuil. Aussi, l'histoire de deux tirailleurs sénégalais pris dans la tempête de la Grande Guerre après le déjà très historique 1889, l'attraction universelle parue chez l'Harmattan, où vous suiviez par le roman une délégation venue du Sénégal à l'exposition universelle de Paris. Bonjour David Diop.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Juste retour sur une polémique, celle de l'hommage aux 8 maréchaux de la Grande Guerre, dont le maréchal Pétain. Le président a salué pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat, tout en modérant son propos, estimant qu'il avait par la suite conduit à des choix funestes. Il y a eu une réponse très rapidement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, cette fois-ci de François Hollande, apportant peut-être un autre regard sur cette situation. L'histoire, a écrit l'ancien président, n'isole pas une étape, même glorieuse, d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal qui a délibérément couvert de son nom et de son prestige la trahison, la collaboration et la déportation de milliers de juifs en France. Bruno Cabanne, je me tourne vers l'historien. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'histoire ?
On doit, je pense, que François Hollande a parfaitement raison. Je pense qu'il est impossible, dans le cas de Philippe Pétain, d'isoler la Grande Guerre du reste de sa vie. Il aurait été honteux que le chef de l'État soit associé à un hommage rendu à un personnage frappé d'indignité nationale en 1945. Voilà.
Point.
Point.
Bon, donc on va dire que l'Élysée vous a plutôt suivi sur cette version-là, puisque hier soir
en
le temps
pas mal de temps par oui, ailleurs à le faire.
Benjamin Griveaux, pour déminer la situation, a assuré qu'il n'y aurait aucun hommage rendu au maréchal Pétain ce samedi. Voilà donc comment on a pu tenter de sortir aussi de cette polémique qui a occupé une semaine pourtant consacrée à l'itinérance mémorielle. David Diop, cette question de la dualité de ces figures binaires aussi que la guerre peut engendrer, la violence des situations, vous l'interrogez d'une toute autre manière à travers votre roman Frères d'âme. Est-ce que vos personnages, vos deux tirailleurs pour vous, et notamment le héros, le principal, on va dire Alpha Ndiaye, est une figure héroïque?
Je ne crois pas. C'est un simple soldat. Alors l'héroïsme, je pense que pendant cette guerre, c'était de courir à la mort en le sachant et à obéir. Il était, je pense, héroïque d'obéir, sachant qu'on allait mourir dans les minutes qui suivaient l'ordre de sortir d'une tranchée. Donc non, l'héroïsme est dangereux. L'héroïsme, en fait, légitime beaucoup de violence. Et je ne crois pas que ce personnage d'Alpha Ndiaye soit héroïque. Sauf dans le sens où il offre sa vie aussi quand même à des généraux ou des capitaines qui lui demandent d'aller mourir.
Un mot encore du sens de cette commémoration. Comment vous deux, vous l'interprétez, ces commémorations du centenaire de 1918? Qu'est-ce qu'on commémore exactement, Bruno Cabanne?
Ça dépend où. Ça dépend qui commémore, je pense qu'on commémore un peu partout un tournant majeur dans l'histoire de la guerre. Un tournant majeur dans l'histoire de la guerre qui est à la fois un tournant en termes d'industrialisation de la guerre, qui devient un phénomène monstrueux. C'est un tournant culturel qui inclut aussi bien les civils que les combattants. Il me semble que les civils sont un peu oubliés des commémorations actuelles en France, et notamment les femmes. Et c'est aussi un tournant anthropologique, dans la mesure où il inflige aux êtres humains des formes de mort et des formes de disparition, disparition des corps notamment, qui n'existaient pas jusque-là, en tout cas pas à ce niveau-là, et dans cette ampleur. Je pense notamment au nombre de disparus, très nombreux, très difficiles à les réévaluer, sans doute aux alentours de 30-40% peut-être, qui explique aussi peut-être qu'un siècle plus tard, ce qui est toujours quelque chose de compliqué à comprendre pour un historien, un siècle plus tard, cet objet en partie froid, sur lequel moi je travaille depuis 25 ans, qui est mon objet d'étude, l'objet d'étude de très nombreux historiens de la Grande Guerre, soit encore un objet très chaud dans la mémoire familiale, parce qu'elle est liée notamment à une souffrance majeure, qui est le fait de ne pas avoir pu ensevelir des hommes auxquels on était attachés.
On parle de la guerre, mais en vérité, aucune guerre ne se ressemble, Bruno Cabanne. Il y a des guerres et avant chaque guerre, ou dans chaque guerre, il y a un avant et un après. Sur le terrain militaire et stratégique, avant d'en venir au terrain culturel avec vous, notamment sur ce front, on viendra ensuite à l'arrière, quelle nouvelle expérience de la guerre les soldats vont-ils faire ?
Plusieurs expériences. La première, je crois, c'est le choc de l'artillerie, qui est la grande découverte pour beaucoup d'hommes de 1914. Et c'est aussi ce qui me frappe. C'est une découverte qui se fait dans les toutes premières semaines, j'allais dire dans les toutes premiers jours de la guerre. On oublie que le 22 août 1914, c'est-à-dire quoi, 15 jours à peu près, ou une vingtaine de jours après la mobilisation, c'est la journée la plus meurtrière de toute l'histoire militaire française. En une journée, disparaissent sur les champs de bataille 27 000 hommes, c'est-à-dire plus que l'ensemble des morts de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est simplement 20 jours après l'entrée en guerre. Donc ça, c'est une première expérience, l'artillerie. Et puis 1915, c'est aussi un grand tournant avec les gaz, qui est aussi un autre type de mort, notamment cette mort invisible, sans blessure apparente. Puis le développement du shell shock. Bref, toutes sortes d'expériences nouvelles qui sont des expériences très transgressives. Mais là aussi, je voudrais pas donner l'impression simplement d'une guerre industrielle. Et c'est ce que David Diop explique merveilleusement dans son roman. C'est aussi une guerre interpersonnelle que les historiens ont de plus en plus redécouvert. Je suis vraiment ébloui par son roman, qui est un très très grand roman et qui justement permet, je crois, de dire ce que les historiens de la Grande Guerre n'ont pas toujours réussi à dire. C'est que la Grande Guerre, c'est pas simplement une guerre de masse, une guerre industrielle, mais c'est aussi une guerre du face-à-face et une guerre quelquefois de la violence extrême.
Et qui montre aussi, David Diop, à travers cette revanche que Alpha NDI va prendre lors de la mort de son frère d'âme et frère d'armes, Mademba Diop, qu'il va laisser mourir malgré les trois demandes de ce soldat. Il lui demande de l'achever pour abréger ses souffrances. Il ne le fait pas. Travaillé par ses propres traditions et sa culture, il reste avec lui, il lui tient la main, mais il ne le laisse pas ou ne facilite pas ce départ. Il va se sentir gagné par une violence, une sauvagerie que vous placez, et c'est ça aussi qui est particulier, sur un registre humain. On parle beaucoup de la Grande Guerre comme étant une boucherie, une hécatombe, un massacre dans un registre animal, presque bestial. Vous refaites de la violence une émotion ravageuse, mais humaine aussi, David Diop.
Oui, mon collègue m'a donné à répéter le mot industriel à plusieurs reprises, et Blaise Cendrars parle de guerre usinière également pour la Première Guerre mondiale. Et c'est une guerre qui est cataclysmique. On a parlé de l'artillerie. Il y a des pluies d'obus qui tombent, d'après les documents que j'ai pu lire, pendant des jours et des jours. Il y a un bruit continu. Et pour moi, c'est ça l'extrême violence. C'est une violence qui est donc hors des normes humaines, au-delà de l'humain. Et j'ai voulu créer un personnage qui ramène la violence au niveau d'homme, au niveau de l'homme, et qui, au passage, interroge le rapport entre l'humain et l'inhumain, la violence industrielle et la violence à hauteur d'homme. Est-ce qu'elles sont assimilables ? Est-ce qu'elles sont comparables ? Et je pense que Ce livre que j'ai écrit interroge aussi cette question-là.
Et les représentations qu'on en a, parce qu'il est aussi question du regard qu'on porte sur l'autre. Vous le racontez, la France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange, en parlant des soldats noirs, des tirailleurs sénégalais. Or lui, il veut domestiquer sa sauvagerie, presque la rendre, en faire une arme contre l'adversaire. C'est pas la même sauvagerie qu'on attend de lui, en tout cas.
Oui. Il y a eu une guerre des propagandes terribles entre la France et l'Allemagne autour du tirailleur sénégalais. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on acceptait dans l'équipage réglementaire ou du soldat un coupe-coupe. Mmh. Eh bien, ce coupe-coupe, d'après ce que j'ai lu, mais vous allez peut-être préciser les choses, c'était un coupe-coupe pour nettoyer les tranchées allemande, pour faire peur à l'ennemi allemand.
Qu'est-ce que c'est un coupe-coupe ?
Alors, c'est une sorte de long coutelas qui sert à débroussailler, qui sert à couper des branches et qui peut être donc une sorte d'arme de guerre. C'est un grand couteau, si vous voulez. Et de l'autre côté, du côté allemand, il y a eu une contre-propagande où, justement, le tirailleur sénégalais était présenté. J'ai vu des caricatures d'un journal de Berlin présentant le tirailleur sénégalais avec des traits extrêmement grossiers, un chapelet de crâne autour de sa ceinture, et puis un rictus de sauvagerie énorme, et ce coupe-coupe à la main. Donc ça a vraiment, si vous voulez, impressionné cette propagande à la fois les Français et les Allemands. Et moi, dans ce texte, j'ai voulu déjouer cette propagande d'une certaine façon, en faisant assumer par le personnage le choix d'une violence extrême, mais d'une violence réfléchie. C'est-à-dire que l'obéissance peut être le lieu où peut ménager l'espace d'une liberté. Quand l'obéissance, finalement, c'est de tuer le maximum de gens et qu'on s'autorise à le faire à sa façon, eh bien, on est libre, d'une certaine manière.
Et ça donne, ils ont dit, que je méritais une médaille, que je serais croix de guerre, que ma famille serait fière de moi, que Bademba, qui me regardait du ciel, serait fière de moi. Même Mangin, notre général, serait fier de moi. Et j'ai alors pensé que la médaille m'était égale, mais que personne ne le saurait. Personne ne saurait non plus que Bademba m'avait supplié 3 fois de l'achever, que j'étais resté sourd à ces 3 supplications, que j'avais été inhumain par obéissance aux voix du devoir, mais j'étais devenu libre de ne plus les écouter, de ne plus obéir à ces voix qui commandent de ne pas être humain quand il le faudrait. Bruno Cabane.
Oui, juste ce que vous venez de dire, David, est très juste. Ces stéréotypes racistes de l'armée allemande, il faut aussi les replacer dans le long terme de la Grande Guerre, comme une réponse aux accusations de barbarie allemande du début de la guerre, parce que c'est aussi ce qui m'a passionné dans votre roman, ce thème de la main coupée, hein, des mains mutilées, c'est une des grandes accusations du début de la guerre contre les Allemands. Les Allemands en 14 sont accusés, en l'été 14, de mutiler les enfants du nord de la France ou de les enfants belges, et c'est considéré comme un acte de sauvagerie, de barbarie. Donc ce qui est passionnant, effectivement, c'est cette transgression aussi, hein, cette transgression et comment la mutilation, proprement parlée, et la prise de trophées, notamment, est considérée comme le cœur même de la transgression.
Oui. Et ce qui m'intéresse... Alors, on a parlé de Blaise Cendrars, il a écrit un très beau texte qui s'intitule « La main coupée ». Ouais. C'est la main qui caresse, c'est la main qui dessine, la main, c'est la main qui tue aussi. Et donc, ça a une symbolique forte. Et les Allemands ont véritablement reproché à l'armée française donc d'avoir accepté le coupe-coupe, et puis surtout d'avoir introduit des tirailleurs sénégalais en disant, et on va reprendre le mot barbarie, que les Français avaient introduit la barbarie dans une guerre européenne.
À la différence des
Anglais. Ils avaient négrifié l'armée française. Et ça aura des conséquences encore jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Jean Moulin, apparemment, est entré, si vous voulez, en début de résistance dans son département de l'Eure-et-Loire, quand il a refusé ce que lui demandaient des nazis, qui était de justifier leur accusation, qui était de d'accuser les tireurs sénégalais d'avoir commis un massacre dont ils étaient eux-mêmes les instigateurs.
Et comme vous le savez, ces accusations racistes se poursuivent après la guerre, puisque l'occupation de la Rhénanie, on envoie aussi des tireurs sénégalais pour occuper la Rhénanie, et c'est là aussi considéré comme un signe de sauvagerie, une forme d'humiliation très forte de la part des alliés.
Alors j'en reviens à la particularité de cette grande guerre et aux nouvelles expériences de la guerre vécue par les soldats qui vont la faire. On est encore au temps de la conscription et de la mobilisation générale, Bruno Cabanne. Plus de 73 millions d'hommes mobilisés. Qui sont ces hommes qui partent au front? Est-ce qu'ils étaient, comme l'a dit l'Élysée, pour l'essentiel des civils que l'on avait armés?
C'est une formule un peu maladroite, simplificatrice. Il reste, je crois, c'est plus juste, des citoyens soldats. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. Ce sont des citoyens soldats jusqu'à la fin de la guerre. Ce sont des hommes qui, même dans leur vie quotidienne, dans les tranchées, restent liés à l'arrière, par les correspondances notamment, qui restent très attachés à la vie de l'arrière. Donc ils restent liés à la vie civile, oui, bien sûr, mais qui progressivement, assez vite, deviennent des combattants. C'est assez spectaculaire de voir effectivement comment on est passé à un modèle très maintenant complètement différent. La conscription, ça passe aussi par ces rituels de séparation qu'on voit représentés notamment à la gare du Nord, vous savez, ce magnifique tableau d'Albert Herter, le départ des combattants, enfin, le départ des soldats en 1914, où il représente d'ailleurs son propre fils qui a été tué à la guerre, et ces hommes et ces femmes qui se séparent dans les gares. Voilà, ces rituels de la mobilisation sont très liés à ces armées de conscription.
Alors la guerre, c'est un destin qu'on ne se choisit pas, David Diop. Vous l'écrivez, mes camarades de combat, blancs et noirs, ont besoin de croire que ce n'est pas la guerre qui risque de les tuer, mais le mauvais œil. Ils n'aiment pas le hasard est trop absurde. Comment vos deux tirailleurs sénégalais sont arrivés sur ce théâtre de guerre?
Alors, ces deux personnages sont arrivés volontairement sur le théâtre de la guerre parce qu'ils viennent de sociétés en Afrique de l'Ouest qui sont des sociétés nobiliaires qui valorisent l'image du guerrier. Donc il n'était pas du tout absurde pour certains de se poser comme des volontaires pour aller faire la guerre. Donc voilà, il y a eu évidemment un peu plus tard, une sorte de recrutement massif par Blaise Diagne, par exemple, en Afrique de l'Ouest, de troupes. C'était vers la fin de la guerre, je crois, en 1918-1917. Mais il y a eu aussi des tirailleurs qui ont accepté d'aller à la guerre volontairement. J'ai lu dans un texte historique proposé par un historien la vie d'un général à la retraite qui était une sorte de consultant et qui disait, alors j'ai oublié son nom, vous le reconnaîtrez peut-être, à peu de choses près, qu'il soit blanc ou noir, les jeunes gens vont à la guerre en souriant. Il y a toujours cette idée que on peut jouer sur la volonté d'en découdre aussi de certains. Et il y a un tableau d'un certain Bétanier qui s'appelle La Tâche, qui représente la France, une carte de France dans une salle de classe, et où on voit des élèves qui sont en uniforme de tous les corps d'armée de la France. C'est un tableau du début du XXe siècle. Et cette tâche, c'est une tâche noire qui se trouve à l'est. C'est l'Alsace et la Lorraine. Et donc, on peut imaginer en effet qu'on a préparé depuis 1870 des générations de jeunes gens en France à aller à la guerre pour reconquérir cette partie-là de la France.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'au Sénégal, par exemple, il y a aussi l'espoir d'une vie meilleure, peut-être une promotion sociale, de droits nouveaux?
C'est aussi un aspect qu'il ne faut pas écarter, puisque dès que vous vous engagiez, on donnait une bourse à votre famille, on donnait de l'argent immédiatement. Donc évidemment, il y a eu des engagements liés à l'économie, à la volonté de régler quelques problèmes matériels grâce à ça. Il y a plusieurs cas de figure. Et donc là, en effet, on peut le compter, cette question de l'argent.
Bruno Cabanne, qu'est-ce que le général Mangin mettait derrière cette force noire comme il l'avait aussi nommé, quelle qualité de guerrier.
Oui, le projet de Mongin est intéressant. C'est un projet qui date d'abord d'avant la guerre, hein, qui date de 1910, qui est lié, je pense, à une des grandes angoisses qu'on a complètement oubliées, et une des grandes angoisses de la France d'époque, qui est une angoisse démographique. Le déséquilibre démographique avec l'Allemagne, le fait que, voilà, il n'y a plus d'enfants en France. Et l'idée, effectivement, que dans une guerre importante, qui est à venir, il faudra faire appel aux forces coloniales, avec aussi, ce qui est une notion importante à l'époque, les races martiales. Mmh. Cette idée que certaines races sont plus douées pour la guerre que d'autres. C'est pas d'ailleurs une idée française, c'est une idée plutôt anglaise qui a été qui date de la fin dans les années 1880, enfin c'est Lord Roberts qui la développe pour les Indiens, mais qui est aussi reprise pour les Africains et notamment pour les populations du Mali, du Sénégal, ce qui amène d'ailleurs à des sortes de panachages dans les unités coloniales en fonction de supposées qualités guerrières, de courage ou liées à des grandes traditions guerrières anciennes.
Je voudrais qu'on revienne aussi sur une autre particularité de la Grande Guerre, et oui, c'est bien sûr les tranchées que vous racontez très bien, David Diop, que vous comparez aussi, ou votre soldat, au ventre de la femme. Mais plus globalement, il y avait une géographie très identifiée du champ de bataille dans la Première Guerre mondiale. Et on le voit aujourd'hui à travers le périple réalisé par Emmanuel Macron. Il y a déjà cette géographie-là qu'on ne voit plus aujourd'hui dans les guerres d'aujourd'hui, ou beaucoup moins localisées. Et il y a aussi la figure du soldat, ce corps redressé ou ce corps couché, imposé par cette guerre des tranchées. David Diop.
Alors je pense que le j'imagine, et ça je l'ai lu en fait, et ça m'a vraiment frappé dans certains passages de La main coupée de Blaise Cendrars, où on imagine des soldats voûtés qui sont tout le temps repliés sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ces balles qui peuvent les atteindre. Et la guerre modèle les corps. Et j'ai vu des images aussi d'aliénés mentaux, hein, qui étaient peut-être aussi humiliés parce qu'on les promenait tout nus et qui n'arrivaient plus à se redresser. Voilà,
ouais.
ils avaient le corps en fait ployé sous le poids de la terreur immense qu'ils...
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est passé d'un corps redressé, qui est le corps qu'on apprend à construire dans les casernes, c'est le corps de la fin du 19e siècle, à ce fameux corps couché dont vous parliez. C'est Stéphane Audouin-Rousseau qui explique très bien cette transition majeure de la guerre de 14, le fait qu'effectivement, sous le choc de l'artillerie, il est impossible de maintenir les postures corporelles qui ont été apprises dans les casernes, qui est des grands, donc ce qui amène à des recompositions et des réorganisations des savoirs en temps de guerre.
J'en reviens à l'autre polémique controverse qui a eu lieu ces derniers jours sur la question de savoir ce que nous commémorons aujourd'hui, le sens de cette commémoration. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas tant de célébrer pour vous, Bruno Cabanne, une victoire militaire que une victoire tout court, à la fois civile et militaire, et surtout une grande hécatombe?
Il y a deux choses dans votre question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour les soldats?
La question, en fait, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on commémore?
Certainement pas une victoire.
Pour vous.
Certainement pas une victoire. Et on ne commémorait pas une victoire en 1918. On commémorait le titre de mon premier livre s'intitule La victoire endeuillée. Le deuil est l'élément majeur en 1918. Donc, naturellement pas une victoire. Je pense qu'on commémore un moment, un tournant, et on commémore surtout un moment qui a marqué par le deuil de masse nos sociétés.
David Diop, quel a été l'après? Je vous propose d'écouter, pour en discuter, les mots d'Émile Zinzou, l'ancien président du Bénin en 1968, on disait la République du Dahomey à l'époque. Lui parle d'une guerre accoucheuse de révolution.
La guerre, qui est une accoucheuse de révolution, a créé une ambiance et a même a éveillé un nationalisme, des revendications qui ne paraissait pas évident ni normal autrefois, avant-guerre. Qu'il y a eu aussi Brazzaville, malgré ses restrictions. Qu'il y a eu les condamnations. Il y a eu des gens de mon pays qui ont été condamnés à mort et fusillés pour gaullisme. Que tout cela ne pouvait conduire qu'à une chose, c'est de dire non, après cette guerre, nous ne pouvons plus rester ce que nous étions.
Est-ce que c'est vrai pour vous, ça, David Diop, qu'après cette guerre, plus rien n'a été pareil?
Alors, je ne peux pas vous répondre si c'est vrai.
Ce serait le tome 2.
Ce que je sais, c'est que je lis dans des textes comme ceux, par exemple, d'Amadou Ampateba, qui dit, d'une part, qu'il y a toute une classe d'âge. Alors, il parle du Mali, hein, de certaines zones du Mali, qui a beaucoup fourni en tirailleurs sénégalais, qui est parti et qui n'a pas pu transmettre des savoirs aux générations suivantes. Mais ceux qui sont revenus avec un autre regard sur la mère patrie, sur la France. Ils ont vu des camarades, soldats, qui pleuraient, qui avaient peur, qui, comme eux, partageaient les mêmes souffrances, avec lesquels ils ont fraternisé. Et donc, le regard, si vous voulez, un peu mythique qu'on pouvait avoir de la France, de la métropole, eh bien, il a commencé, je pense, à s'effriter un peu, justement parce que ces tirailleurs sont venus et ont vu.
Bruno Cabanne.
Non, mais c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a cette idée d'une civilisation qui serait apportée d'Europe, cette idée de progrès aussi, qui bascule complètement à ce moment-là. Elle est ressentie avec encore plus de force en Afrique ou dans les colonies, avec en plus un autre élément qu'il ne faut pas négliger, qui est la déception du wilsonisme. Wilson avait fait miroiter des promesses à beaucoup de peuples et le traité de Versailles, c'est ce qu'a très bien montré Erez Manela dans son livre, le traité de Versailles est un moment de désenchantement profond pour de nombreux peuples coloniaux.
Vous montrez Bruno Cabanne en presque 1000 pages dans votre synthèse une histoire de la guerre du 19e à aujourd'hui, comment la guerre n'a pas seulement changé d'échelle, elle a aussi changé de nature. Mmh. Et vous rappelez que la guerre s'est aujourd'hui beaucoup banalisée, notre seuil de tolérance aussi a changé, que des images de conflits lointains sont sur nos écrans à longueur de journée. Pour terminer, une question, quelle mémoire de la guerre, de cette grande guerre, faut-il absolument pour vous sauvegarder, qui nous parlerait encore aujourd'hui?
Une mémoire familiale. Une mémoire familiale. Je pense que c'est comme ça que la guerre va être commémorée. Et c'est d'ailleurs ce qui me frappe dans ce centenaire, c'est l'ampleur des dons, par exemple, des familles au moment de la grande collecte en France. C'est tout à fait fascinant. Les gens sont allés chercher d'eux-mêmes des objets dans leur famille et ils ont apporté aux archives. Voilà, je pense que c'est ça la clé de la mémoire de la Grande Guerre.
Parce que c'est aussi ça la grande angoisse, l'amnésie après
la disparition angoisse, des derniers pollus. Après, oui, après la disparition des derniers pollus. Mais enfin, il y a quand même une mémoire qui chemine lentement en l'absence même des derniers témoins.
Merci beaucoup à vous. Bruno Cabanne. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, cette somme que vous avez dirigée, Une histoire de la guerre du 19e à nos jours, une synthèse pluridisciplinaire. Vous avez rassemblé beaucoup de collaborateurs donc autour de ce projet. David Diop, Frère d'âme, très beau roman qui est paru au Seuil. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
France Culture, il est 13h24.
La Grande Table. Le rendez-vous de la médiatrice.
France Culture ne diffusera plus les cours de l'Université populaire de Michel Onfray. Tout de suite, certains d'entre vous souhaitaient quelques explications. Et bien pour y répondre à vos questions, voici la voix de la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et vous recevez aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et je vous cède la parole, mesdames.
Sandrine Trainer, bonjour.
Bonjour.
J'ai reçu au service de la médiation près d'un demi-millier de mails d'auditeurs très déçus, voire mécontent de la suppression de la diffusion des cours de l'Université populaire de Michel Onfray. Certains me demandent même de vous faire part de leur désarroi. Avant de vous soumettre quelques-unes de leurs remarques, une question très simple de contextualisation. Pourquoi avoir supprimé la retransmission des cours de Michel Onfray?
Alors d'abord, je commencerai par vous dire que pour retransmettre des cours, encore faut-il qu'ils existent. Et à ma connaissance, je n'ai été saisie d'aucune proposition de cours pour l'année en cours, et du reste, suite à l'expression du fait que faute d'informations et de projets construits, de nouveaux projets de la part de Michel Onfray, en l'occurrence, je n'allais pas signer un chèque en blanc sur la grille d'été de l'année prochaine. Michel Onfray a annoncé qu'il arrêtait ses cours, mais rien ne montre que ceci soit lié à cela. Donc ça, c'est la première chose. Pour retransmettre des cours, encore faut-il qu'il y ait des cours, qu'on en connaisse les contenus et qu'on puisse discuter de ces contenus, puisque nous sommes responsables de notre antenne. Et puis, j'aurais envie de retourner ensuite la question, c'est pourquoi continuer à retransmettre ces cours. Je veux dire par là que chaque été, les équipes de France Culture se plient en quatre pour proposer aux auditeurs, et je crois que ces auditeurs la plébiscitent, une grille d'été variée, pluraliste, une grille d'été diverse, avec des propositions tournantes. Il se trouve que pendant 15 ans, Michel Onfray a mené à l'antenne de France Culture un grand projet qui était la contre-histoire de la philosophie. C'est énorme, imaginez-vous, un seul essayiste en France a eu droit chaque été à 25 heures de programme sans aucune discussion, sans aucun débat. Moi je crois que au simple titre de ce pluralisme, et dès lors que ce projet était terminé, en réalité c'est il y a 2 ans qu'on aurait dû arrêter. Depuis 2 ans, en fait, ce qui est proposé par Michel Onfray ne correspond plus à l'esprit de la grille de France Culture.
Alors précisément, vous avez adressé il y a quelques semaines une réponse aux auditeurs en leur expliquant que les cours retransmis, justement depuis 2 ans sur France Culture, ne correspondent plus à ce que vous voulez proposer à vos auditeurs. Et Béatrice se dit très choquée par cette réponse et se demande si vous êtes à ce point indifférente à leur demande. Elle écrit, mais si justement ces cours correspondent toujours aux souhaits et aux besoins des auditeurs, alors que répondez-vous à Béatrice?
Mais je lui réponds tout simplement que ce dont Béatrice ne se rend pas compte, et j'entends tout à fait le désarroi de Béatrice, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai beaucoup plus de messages en permanence depuis des années contre le fait de diffuser ces cours que l'inverse. Il y a eu beaucoup plus, et encore l'été dernier, et l'été d'avant, et l'été d'avant, et y compris en interne au sein de la Maison de France Culture. Donc, tant que le projet me paraissait un projet effectivement original, valide, important, nous l'avons soutenu, et Michel Onfray devrait aujourd'hui nous en remercier plutôt que nous accuser, parce que nous avons contribué à faire exister ce projet. En l'occurrence, on a soutenu tant qu'il nous a semblé qu'on pouvait le soutenir, mais une fois encore, il y a toujours eu beaucoup plus de messages pour s'opposer au magistère de Michel Onfray sur notre antenne que l'inverse.
Alors, je vous livre à présent l'analyse de Franck. Cet événement semble être l'aboutissement de la réorientation générale de votre antenne depuis de nombreux mois, marquant la sévère reprise en main politique de votre rédaction. Une analyse partagée par de nombreux auditeurs, comme Cyril par exemple, qui indique « Nous sommes très nombreux à évaluer l'hypothèse que vous n'ayez pas pu prendre cette décision sans avoir subi une pression, qu'elle soit idéologique, professionnelle ou politique. Sandrine Trainer, subissez-vous des pressions ?
Écoutez, je vais les rassurer et à mon habitude, je vais assumer entièrement l'intégralité de la décision, non pas de ma décision, mais de la décision de la direction de France Culture, effectivement, au vu de l'écoute des dernières années, d'interrompre cette retransmission, pouvoir penser que voilà qu'il y a encore des coups de fil, enfin voilà, c'est tout ça n'est pas très sérieux. Accessoirement, Je comprends le désarroi, évidemment, des auditeurs qui n'aimaient pas. J'ai eu aussi beaucoup de messages d'auditeurs qui m'ont remercié de cette décision. Je comprends aussi le désarroi de Michel Onfray. En revanche, la seule chose que je lui reproche, c'est, compte tenu du rôle que France Culture a joué pour lui, d'avoir osé transmettre l'idée selon laquelle nous n'étions pas libres politiquement de nos contenus. C'est absurde.
Dernière question. Des auditeurs s'inquiètent de ne plus pouvoir écouter ni télécharger les émissions de l'Université Populaire et souhaitent savoir si cette décision, je cite, « émane du philosophe responsable de l'université ou de vous-même, Sandrine Trainer, ou bien des deux parties » et demandent donc, les auditeurs demandent si ces podcasts seront de nouveau disponibles.
Alors figurez-vous que dans les choses qui ont singularisé la présence de Michel Onfray sur l'antenne de France Culture, il y a que les cours de Michel Onfray étaient le seul programme de France Culture sur lequel nous n'avions pas la main sur les podcasts, parce qu'il y a un système économique que je n'ai pas le temps de vous développer ici, et que je n'ai pas de raison d'ailleurs de développer ici. Donc en fait, nous n'avions les droits sur les podcasts que pendant 2 semaines après la diffusion. Alors je suis d'accord maintenant que ce programme est terminé, et je le demande à Michel Onfray en direct sur l'antenne, donnez à tous vos fans l'intégralité des podcasts, de tous ces cours que France Culture a contribué à faire connaître sur l'antenne. Donc non, on n'a pas nettoyé le site, tout simplement, nous n'avons jamais eu les droits pérennes sur ces cours.
Merci Sandrine Trainer pour ces explications.
Merci à vous.
C'était le rendez-vous de la médiatrice, merci à vous Emmanuel Davier. France Culture, il est 13h30, tout de suite les pieds sur terre, Sonia Kronlund.